Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Pour ceux qui s'en souviennent, à Berlin, il y a 30 ans tout juste, il faisait froid. Le mur tombait, par briques ou par pans entiers, et curieusement, ce n'était pas encore la liesse, mais la gravité, une émotion sourde à voir bouger l'histoire. Le mur tombait, et pour plus d'une génération, cette cicatrice de fil barbelé qui défigurait le centre de l'Europe, cette frontière longtemps infranchissable, sauf au péril de leur vie pour ces Européens-là abandonnés à l'Union soviétique depuis Yalta, cette cicatrice allait s'effacer et un vent d'optimisme balayait l'Occident. Les uns prédisaient la fin de l'histoire, d'autres très vite le choc des civilisations, mais nous avions gagné la guerre froide, nous n'avions plus d'ennemis et l'Europe était riche de promesses. Nous voilà 30 ans après, à nous interroger sur l'évolution de notre continent, sur nos erreurs ou notre myopie à croire que le modèle de nos démocraties libérales et de l'économie de marché adoucie de protection sociale allait triompher à jamais. 30 ans après, le doute gagne nos opinions publiques, l'Europe centrale est aux mains de régimes autoritaires démocratiquement élus et Vladimir Poutine décrète que notre système se meurt. Les liens transatlantiques se distendent au point qu'Emmanuel Macron déclare l'OTAN en état de mort cérébrale. 30 ans après, pourquoi donc l'extrême droite ressurgit-elle à l'est de l'Allemagne? Jusqu'où les démocraties illibérales affaiblissent-elles le projet européen? Comment les réseaux sociaux transforment-ils en profondeur la pratique démocratique? Quel ressort pour la renforcer? Quel projet commun pour l'Europe? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Thomas Gomard. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut français des relations internationales et historien des relations internationales. Avec nous par téléphone de Berlin, et je l'en remercie vivement, Daniela Schwarzer, qui dirige le Conseil allemand des affaires internationales, l'équivalent de l'IFRI en quelque sorte. Par téléphone aussi de New York, bonjour Yasha Munk, vous êtes politologue, professeur associé à Johns Hopkins et à Harvard, et votre dernier livre, « Le peuple contre la démocratie » a fait grand bruit quand il a été publié en France il y a quelques mois. Par téléphone aussi, Ivan Krastev, président du Centre de stratégie libérale à Sofia en Bulgarie, directeur de recherche à l'Institut des sciences humaines à Vienne. Thomas, quel est votre souvenir de la chute du mur? Vous étiez bébé.
J'étais collégien, donc j'ai des souvenirs relativement précis. J'ai deux images en fait qui me reviennent à l'esprit et qui sont séparées géographiquement. La première, c'est évidemment celle de Rostropovitch et son violoncelle jouant devant la foule. Et l'autre est antérieure, c'est celle de ce manifestant chinois bloquant une colonne de chars sur la place Tiananmen. Et avec le recul, en 30 ans, ce sont ces deux images que je vois ensemble et qui conduisent au fond à s'interroger sur la transformation du système international.
Donc la même année, hein,
la même année, Tiananmen étant en juin 1989 et la chute du mur en novembre 1989. Et la question que ça pose, au fond, c'est tout simplement est-ce que ces deux images ne sont pas aussi une manière de se demander si le centre de gravité du système mondial n'est pas passé en 30 ans du cœur de l'Europe, l'Allemagne, à l'Asie-Pacifique et en particulier à la Chine.
D'autant qu'on a appris hier la première mort à Hong Kong, la mort d'un jeune étudiant qui avait été grièvement blessé le week-end dernier. Et il y a une autre date, je crois, tout à fait intéressante pour marquer cette charnière de la seconde moitié du XXe siècle, c'est qu'en 1990, très précisément, au CERN à Genève, Tim Berners-Lee mettait en ligne le premier site Internet. Oui. Et ça, c'est passé inaperçu.
C'est-à-dire que ce qui est passé inaperçu, c'était à l'époque l'importance de cette découverte et le fait qu'effectivement la naissance de ce qui allait devenir le web allait complètement transformer les formes politiques, la vie économique, au fond une sorte d'infusion de tous nos systèmes par le numérique. Et donc effectivement, je pense qu'il faut penser l'aspect 89-90 à la fois en termes politiques et puis en termes technologiques. Et puis comme vous le savez aussi, il y a une réflexion historiographique qui relie 89 à des comment dirais-je, chronologies antérieures, et en particulier à 1979, 10 ans avant, se mettent en place aussi des dynamiques qui vont rejouer en 89 et jusqu'à nos jours, l'invasion soviétique en Afghanistan, la révolution islamiste en Iran.
Daniela Schwarzer, quel est votre souvenir à vous de la chute du mur de Berlin? Vous êtes allemande, où étiez-vous? Vous étiez enfant, vous aussi.
Oui, j'étais lycéenne. On était tous collés devant la télé. On habitait à côté de Stuttgart à ce moment-là. Et je me souviens très bien d'une chose que mes parents avaient dit des années avant la chute du mur. Ils disaient toujours, on va retourner à Berlin une fois que le mur tombe. Alors ce soir-là, moi j'étais prête à faire mes valises pour aller vivre à Berlin, mais ça a pris 10 ans et je suis retournée seule. Voilà. Donc on avait de la famille des deux côtés du mur, et pour nous c'était non seulement un achèvement historique que le mur tombe, mais aussi une histoire très personnelle, une réunification de la famille aussi.
Alors on lit beaucoup ces temps-ci qu'en fait ce ne serait pas tellement une réunification, ce ne serait pas tellement une intégration, certains même parlent d'une annexion. Jusqu'à quel point est-ce que les mémoires restent extrêmement différentes d'un côté à l'autre de l'Allemagne aujourd'hui, 30 ans après?
Il y a toujours des histoires qui sont en compétition. Mais à mon avis, il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même un moment entre la chute du mur et la réunification. Et pendant cette période, il y avait beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions. Et la vie de la majorité des gens qui habitaient l'Allemagne de l'Est, c'était quand même l'intégration dans le système Ouest. Et non seulement l'Allemagne de l'Ouest, mais aussi l'intégration européenne. Donc c'était un grand espoir. Aujourd'hui, il y a certes des espoirs dessus. Il y a beaucoup de critiques par rapport à la manière dont cette intégration a été géré. Il y a beaucoup d'espoir qui a été déçu, notamment en termes économiques, mais aussi la situation sociale dans quelques parties de l'Allemagne de l'Est reste compliquée. Mais à mon avis, c'était le bon choix politique du moment d'intégrer les deux parties de l'Allemagne dans les systèmes qui sont vus comme le système libre à ce moment-là.
Est-ce qu'il n'y a pas une bonne part de Schadenfreude, ce mot allemand à peu près imprononçable, mais quand on voit que il n'y a seulement 38% des Allemands qui estiment que la réunification est un succès?
Oui, c'est un pourcentage qui choque, parce que quand même, on vit en paix depuis presque 30 ans aujourd'hui, depuis 30 ans, et réunifié depuis 29 ans, c'est quand même un achèvement historique énorme. Et donc, il y a, à mon avis, ce mécontentement n'est pas uniquement lié à la réunification et la manière dont elle a été gérée, mais c'est aussi l'expression d'un malaise plus général qui n'a rien à faire avec les divisions Est-Ouest, mais c'est plutôt une réponse au contexte global, au contexte international dans lequel on vit, qui donne beaucoup de peur à beaucoup de gens, et donc c'est un mécontentement et une peur vraiment une incertitude par rapport à l'avenir.
On voit néanmoins que c'est dans les Länder de l'Est, donc l'ancienne Allemagne de l'Est, que l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, réalise ses meilleurs scores dans chacune des élections régionales ou locales.
Oui, c'est vrai, là il y a un fort décalage entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Au niveau des parlements des Länder, l'AfD est présente depuis maintenant presque 2 législatures partout en Allemagne de l'Est. Et les gens en général soutiennent un parti qui est à la fois xénophobe et nationaliste, qui a des forts très antisémites. Et donc il y a un vrai questionnement par rapport à la question, est-ce que l'intégration politique a vraiment réussi? Pourquoi est-ce qu'en Allemagne de l'Est, il y a un appétit apparemment qui se manifeste dans ces élections pour un ordre autoritaire? Mais sous-jacent à tout cela, à mon avis, est une grande peur des temps modernes.
Passons maintenant à votre point de vue, Ivan Krastev. Bonjour, vous êtes bulgare, vous faites donc partie de ces Européens de l'Est qui ont vu dans la chute du mur le symbole de leur propre affranchissement. Quel est votre souvenir à vous de ces jours-là?
C'est intéressant parce que, bien sûr, on se souvient de ce que l'on a fait, d'où l'on a été, mais ce dont on ne se souvient pas de façon paradoxale, c'est ce que vous pensiez à l'époque. Parce que pour moi, l'impression la plus forte de 1989, c'était que soudain, l'histoire s'est mise à courir. C'était un tel changement de rythme. Tout allait tellement vite que le lundi, on prédisait quelque chose pour le vendredi, et puis le vendredi, on ne se souvenait plus du tout que ce genre de choses-là pouvait exister. Ce type de changement de temporalité, de rythme, l'ouverture des horizons vers le possible et l'impossible, pour moi, c'est l'impression la plus forte.
Selon vous, 30 ans après, qu'est-ce que l'on n'a pas compris? Quelles ont été nos erreurs ou nos malentendus?
C'est intéressant parce que lorsque l'on revient en arrière, il y a deux malentendus. Vous savez, quand j'ai lu et relu ce que l'on croit avoir commencé alors, c'est très différent. En 1989, 90, 91, il n'y avait pas ce triomphalisme dont tout le monde parle. Tout à fait au contraire, il y avait un très haut niveau d'incertitude. L'effondrement de l'Union soviétique a été une surprise pour beaucoup. Et jusqu'en 1990, les principaux spécialistes américains de l'URSS croyaient que l'effondrement de l'Union soviétique était improbable. C'était ce point d'incertitude énorme, renforcé par les guerres en Yougoslavie. Les gens oubliaient le rôle important qu'ils ont joué dans la façon dont les gens voyaient la période de transition. Mais ce en quoi je crois, c'est que, et qu'on n'avait pas vu à l'époque, c'est l'idée que la fin de la guerre froide signifiait que l'Est allait changer, mais que l'Ouest resterait tel quel. Je ne sais pas pourquoi les gens y pensaient à l'époque, mais l'idée de changement était concentrée sur les changements de l'Est. Point de vue économique, politique, la transformation a été radicale et assez réussie. Il suffit de dire qu'au cours des 30 dernières années, le PIB de la Pologne a triplé. Mais dans le même temps, ce que l'on n'a pas vu, c'est à quel point le changement de l'Est allait changer l'Occident. Et aussi à quel point cette période qui était, disons, très particulière, du fait que l'Est tentait d'imiter l'Ouest, c'était la façon dont nous comprenions la normalité, allait produire vraiment beaucoup de ressentiments.
Yascha Mounk, vous avez, vous, 37 ans. Vous êtes allemand, d'origine polonaise. Vous vivez maintenant et vous enseignez dans les grandes universités de la côte Est aux États-Unis. Quel est votre souvenir de la chute du mur? Si vous en avez.
Oui, quand même, j'ai un souvenir, mais c'est un souvenir un peu complexe. Alors, j'avais environ 7 ans au temps de chute de la mur. J'ai une mémoire assez claire de regarder ces événements live sous la télévision. Je me vois dans une maison devant la télévision, pensant, peut-être dans un certain sens, comprenant que c'est un grand change de l'histoire et que des gens qui étaient qui vivait dans une tyrannie était maintenant libre. Mais le détail un peu paradoxal, c'est que la maison que je vois autour de moi, c'est une maison dans laquelle j'ai pas vécu pour une autre 2 ou 3 ans. Alors en fait, ça doit être que j'ai regardé un documentaire sur le chute de la mur quand j'avais peut-être 10 ans. Et je me le rappelle de manière vivement comme si je l'avais vu live à cette époque. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est un peu une métaphore pour le changement de notre vue des protestes et de la révolution même. Parce qu'à l'époque, on l'a compris quand même comme une révolution clairement libérale-démocratique, que c'était des gens qui pas juste n'aimait pas le régime communiste, mais qui voulait la démocratie libérale. Et je crois que 30 ans après cet événement, on devrait avoir peut-être une vue un peu plus complexe où la force unificateur de ces protestes, c'était la haine contre le régime communiste, mais les aspirations des gens étaient très différentes l'un des autres. Alors, il y avait certainement des gens qui voulaient une démocratie libérale, mais il y avait d'autres gens pour lesquels la révolution était juste nationaliste, qu'ils ne voulaient pas la domination de la Russie dans leur pays. Pour des autres, peut-être, c'était même une révolution pour de certaines valeurs traditionnelles ou religieuses qui n'étaient pas acceptées par le régime communiste. Et si on regarde l'événement de ce point de vue, on comprend beaucoup mieux pourquoi le peuple français et le peuple polonais, par exemple, a juste voté pour un gouvernement populiste autoritaire.
Oui, le gouvernement polonais, soyons précis, le régime polonais de Kaczynski qui vient de remporter haut la main les dernières élections législatives. Mais quand Ivan Krastev nous dit qu'en fait, on imaginait bien sûr et on espérait que les Européens de l'Est allaient changer, et ils en ont amplement profité, et d'abord les Polonais, mais il nous dit aussi qu'en fait, c'est l'Ouest de l'Europe qui a changé. Et il est vrai qu'en 89, on sortait des Trente Glorieuses et au fond d'un optimisme économique qui a cédé la place à beaucoup de déceptions.
Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'il y a deux phénomènes à la même fois. Une, c'est cette manière de guerre civile entre les différents participants à la révolution de 1989. Et c'est ça qui domine la politique polonaise, hongroise, la politique de beaucoup de ces pays dans l'Europe centrale. Mais l'autre facteur, évidemment, c'est que, oui, l'AfD est plus fort dans l'Est de l'Allemagne, mais elle est aussi représentée dans chaque parlement de l'Ouest de l'Allemagne. Oui, il y a les populistes autoritaires en Pologne et Hongrie, mais le président des États-Unis, lui aussi, est un populiste autoritaire. Alors, du coup, c'est évidemment vrai que le désenchantement avec la démocratie libérale, la peur du futur, la rébellion contre de certains changements culturels et démographiques a une grande force dans tous les pays démocratiques, pas juste ceux qui sont devenus démocratiques en 1989.
Si on en reste pour le moment à l'Europe, Emmanuel Macron vient d'accorder au magazine britannique The Economist une interview retentissante où il dit, entre autres, que l'Union européenne est au bord du précipice parce qu'au fond, de plus en plus, elle s'est vue uniquement comme un marché et non plus comme une communauté ou comme un projet politique. Vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Je ne suis pas sûr. Je crois que les élites européennes voulaient toujours rendre l'Europe comme un projet politique, un projet d'identification. Et à chaque moment, les peuples européens étaient un peu sceptiques là-dessus. Maintenant, il y a aussi le problème que l'Union européenne est censée être une communauté des valeurs, mais en réalité, il y a des grandes différences de valeurs, pas juste entre les différents citoyens européens, mais aussi entre les gouvernements européens. Alors moi, en tant que citoyen allemand, je comprends très bien le projet politique qui dit que je dois partager ma souveraineté avec des citoyens français parce qu'on a des problèmes en commun qu'on peut résoudre juste au niveau de l'Europe plutôt qu'au niveau des petits États-nations. Mais je comprends pas pourquoi je devrais partager ma souveraineté avec une quasi-dictateur en Varsovie ou une dictateur à Budapest. Alors, même sur le plan politique, il y a un vrai problème de légitimité dans l'Union européenne qu'on n'a pas affranchi de manière franche.
Yasha, restez en ligne avec nous, si vous le pouvez. Je retourne vers vous, Ivan Krastev. Jusqu'à quel point ces pays d'Europe centrale dont on vient de parler, avec ces régimes dits illibéraux, parce que démocratiquement élus, mais autoritaires, comment expliquez-vous qu'on soit passé en 30 ans d'une forme d'imitation du modèle de l'Ouest de l'Europe à ce genre de populisme aujourd'hui?
Comme je l'ai dit en 89, les mots clés de la révolution libérale, c'était la normalité. Les pays de l'Est, nous voulions être normaux. Nous n'étions pas fascinés par de nouvelles idées, nous ne voulions pas réinventer le monde. Et bizarrement, le mot expérience, qui est tellement typique des révolutions, était totalement absent de notre vocabulaire. Mais imiter l'Est, imiter l'Ouest, ça signifiait imiter l'Allemagne. Et ça a créé quatre types de problèmes. Tout d'abord, pour les Européens de l'Est, c'était difficile d'imiter la façon dont l'Allemagne faisait face à son histoire, en particulier le fort rejet du nationalisme. Parce qu'en 1989, contrairement à 1945, les nationalistes n'étaient pas dans le camp des vaincus en Europe centrale et orientale. C'était le contraire. Les nationalistes et les libéraux faisaient partie de l'opposition anticommuniste victorieuse. Et il ne faudrait pas sous-estimer le pouvoir des idées nationalistes dans toute cette région, lors des premières élections, lorsque les gouvernements communistes ont été rejetés. Deuxième chose, c'était très difficile pour les Européens de l'Est, bien qu'il y ait le désir intense d'imiter l'État-providence, typique de l'Europe occidentale et de l'Allemagne, le message qui venait de l'Ouest, c'était « c'est trop cher, vous ne pouvez pas vous le permettre ». L'idée que nous n'avons pas pu obtenir les avantages sociaux dont jouissaient les Occidentaux pendant la guerre froide a toujours constitué une critique majeure et une source de ressentiment. Troisième point très important, c'est qu'en 1989, l'Est voulait imiter l'Ouest, c'est-à-dire l'Occident de la guerre froide. Mais l'Occident de la guerre froide a cessé d'exister lorsque la guerre froide a pris fin. Pour un pôle conservateur, en 89, l'Occident, c'était le lieu où les gens allaient à l'église, où les valeurs familiales prévalaient. Et 30 ans plus tard, ce n'est pas ainsi que se présente l'Europe occidentale. C'est ça le tragique, quand vous tentez d'imiter un modèle qui change sans cesse. Vous savez, c'est comme avec les iPhones. Si vous n'avez pas le tout dernier modèle, eh ben votre bidule ne fonctionne pas. Et c'est ce qui a créé les préconditions psychologiques qui ont permis aux dirigeants populistes d'aller au-devant des populations et de se plaindre de la trahison de la révolution, du fait que les populations de l'Est étaient traitées en citoyens de deuxième classe, d'utiliser le ressentiment de la population pour tenter d'établir des régimes politiques où le gouvernement pourrait facilement asseoir son emprise et détruire la séparation des pouvoirs.
Yasha Munk, à New York. Quand on entend aujourd'hui le Viktor Orban, le Hongrois, déclarer qu'en fait, lui et ses alliés du groupe de Visegrad, d'Europe centrale, ils incarnent la vraie Europe, c'est-à-dire l'Europe chrétienne, l'Europe des valeurs, l'Europe qui résiste aux mœurs décadentes, etc. Jusqu'à quel point est-ce que c'est une réponse qui, selon vous, correspond aux anxiétés un peu partout en Europe ou même aux États-Unis liées à la mondialisation, à la perte de repères, au fait que tout va tellement vite et que Internet accélère encore les choses?
Oui, encore une fois, je crois que c'est un vrai débat sur qu'est-ce que c'est la signification de la révolution de 1989. Mais aussi de l'identité européenne. Alors, il y a une idée de l'identité européenne qui est très particulariste, c'est-à-dire que c'est être chrétien, c'est avoir des valeurs traditionnelles, c'est peut-être s'opposer aux droits des homosexuels. Et il y a une autre tradition de qu'est-ce que c'est d'être européen qui est beaucoup plus universelle, c'est-à-dire croire à la démocratie libérale, croire aux droits de l'homme, croire à une société dans laquelle on a un État fort qui peut aider les citoyens, mais on a aussi la liberté individuelle qui permet aux citoyens de faire leurs propres choix dans le plan politique et personnel. Et alors, quand Viktor Orban dit que lui, il est la vraie face de l'Europe, il est en train de proposer que vraiment l'Europe, c'est d'être chrétien, d'avoir ses valeurs traditionnelles, même si ça dit abolir la démocratie, abolir les droits, les libertés des citoyens. Et selon moi, évidemment, je suis un Européen fier, mais je suis un Européen qui base ma identité sur cette conception plus universelle plutôt que particulariste.
Mais ce que vous expliquez aussi dans votre livre, c'est à quel point l'immigration, l'argument de l'immigration, et là aussi les régimes autoritaires illibéraux s'en sont servis alors que ce sont des pays où il n'y a pratiquement pas d'immigrés, vous expliquez à quel point l'immigration sert en fait de carburant à tout un débat qui traverse en profondeur nos sociétés aujourd'hui.
Oui, une des choses qui est vraiment frappante quand on voyage en Pologne, en Hongrie, on parle par exemple avec des politiciens des partis populistes, pas juste avec les leaders, mais avec des députés du Parlement, avec des leaders des partis locaux, c'est à quel point ils ont peur de l'immigration. C'est-à-dire que dans beaucoup de leurs villes, il n'y a vraiment pas beaucoup d'immigration, mais ils disent, écoutez, je connais la France, j'ai voyagé en France, je connais l'Italie, j'ai voyagé en Italie, j'aime pas qu'est-ce qui est en train de passer dans ces pays. Alors il y a une manière de peur de devenir plus comme l'Ouest. Et ça, c'est vraiment une inversion des années 90, où, comme Ivan Krastev disait, il y avait cet espoir de devenir plus comme l'Ouest. Maintenant, il y a une peur dans cette autre facette de devenir plus comme l'Ouest. Mais oui, sur le point de l'immigration, je crois qu'on doit distinguer de manière très claire entre deux points différents. L'une, c'est que notre valeur universelle, l'identité européenne, comme moi je la comprends, dit qu'on doit évidemment traiter de la même manière tous citoyens dans notre pays, s'ils aient leurs origines dans le pays propre ou hors de pays, s'ils aient chrétiens ou pas chrétiens, s'ils aient blancs ou pas blancs. Mais l'autre question, c'est combien d'immigration est-ce qu'on veut en Europe? Moi, personnellement, je crois que l'immigration a des grands avantages, mais c'est évidemment clair qu'une majorité des peuples européens depuis longtemps souhaitent avoir moins d'immigration. Et que les politiciens européens, depuis très longtemps, n'ont pas cédé à ces préférences. Et ça, certainement, a inspiré beaucoup de colère dans l'Europe centrale, mais aussi dans l'Europe d'Ouest.
Et c'est sûrement, Yasha, effectivement, un débat qui va continuer de traverser nos sociétés pendant longtemps. Merci mille fois, Yasha Munk, d'avoir été ainsi en liaison avec nous depuis New York. Retournons à Berlin. Retournons à Berlin les 9 et 10 novembre 89. Hamda Mostafavi, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef à Courrier International, notre partenaire. Rappelez-nous où étaient, ou plutôt qui étaient, les dirigeants des grandes puissances de l'époque à ce moment-là.
Au Kremlin, Mikhail Gorbatchev, le dirigeant soviétique, dort et personne ne le réveille. Ce n'est qu'au matin qu'il apprendra ce qui s'est passé et qu'il prendra la décision cruciale de ne pas se mêler des événements. Il dira plus tard, dans le magazine Time, que la chute du mur de Berlin ne lui est pas apparue comme une surprise. Si quelqu'un a été totalement surpris, c'est bien le dirigeant ouest-allemand Helmut Kohl, que ses équipes mirent 2 heures à joindre alors qu'il était en visite officielle à Varsovie. Que se passe-t-il? Encore une catastrophe? Demande-t-il en décrochant. « Monsieur le chancelier, le mur est ouvert. » Il répond alors « Vous avez bu? Vous plaisantez ?» Le Guardian note d'ailleurs que le dirigeant allemand admettait plus tard facilement qu'il n'avait pas du tout vu venir les événements. Le processus qui allait conduire ce jour-là à la chute du mur avait commencé plus tôt dans la journée par une décision d'Egon Krenz, dirigeant est-allemand, se remémore le site de la Deutsche Welle. Egon Krenz, à la tête de la RDA depuis seulement 15 jours, avait annoncé la nouvelle législation sur les voyages des Allemands de l'Est, une décision relayée plus tard lors de la conférence de presse restée célèbre de Günther Schabowski. Egon Krenz, dépassé par les événements, laissera le mur tomber en n'ordonnant pas à l'armée de retenir la foule. À Paris, le président français François Mitterrand suit d'un œil les événements de l'Est, tout en préparant une réunion de la CEE, la Communauté économique européenne, qui se déroulait le lendemain à Copenhague. Ce n'est d'ailleurs que le lendemain, vers 16h, depuis Copenhague, qu'il saluera les événements heureux de Berlin. Malgré ces déclarations, le Financial Times relate que François Mitterrand et Margaret Thatcher avaient tous les deux des inquiétudes quant à la suite des événements et aux risques posés par une Allemagne réunifiée. À Londres, la première ministre britannique n'en laisse rien paraître et salue dès le lendemain ce grand jour pour la liberté. À Washington, dans le bureau ovale, le président américain George Bush improvise une conférence de presse pour réagir aux événements, rappelle le site Politico. Quand les journalistes présents lui font remarquer qu'il ne semble pas très exalté par les événements, il répond qu'il est exalté mais peu enclin à montrer ses émotions.
Venons-en, Abdam, à nos dirigeants d'aujourd'hui. Où était-il à ce moment-là ?
À Berlin-Est, Angela Merkel n'hésite pas à honorer son habitude d'aller au sauna après son travail, raconte le Guardian. Mais après sa séance, au vu des événements, elle se joint à la foule, passe à l'ouest et finit la soirée en buvant une bière chez une famille d'inconnus de Berlin-Ouest. En Allemagne de l'Est, à Dresde, autre ambiance, Vladimir Poutine et lui, agent du KGB, les services secrets soviétiques. Cette nuit-là et celle qui suivirent, l'actuel dirigeant du Kremlin et ses collègues brûlèrent un grand nombre de documents confidentiels. Quiconque veut comprendre Vladimir Poutine aujourd'hui doit savoir ce qui lui est arrivé à cette époque, assure la BBC. C'est depuis Bruxelles que Boris Johnson, actuel Premier ministre britannique, assistait aux événements, alors que, journaliste, à l'époque, il chroniquait les questions européennes pour le Daily Telegraph. Comme il l'a confié plus tard à la BBC, « J'ai vu le monde changer, c'était un moment merveilleux. Le mur est tombé, Français et Allemands ont dû décider comment faire face à cet événement. Le futur président français, Emmanuel Macron, n'a que 12 ans et observe les événements depuis Amiens, où il étudie au lycée catholique. Il a 30 ans de moins que Donald Trump, alors âgé de 43 ans et milliardaire à New York. Le New York Times s'est d'ailleurs interrogé. Donald Trump, grand défenseur des murs, a-t-il seulement été effleuré par ce qui s'est passé à Berlin ?
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Daniela Schwarzer, je rappelle que vous dirigez le Conseil allemand des affaires internationales. Merci d'être avec nous par téléphone de Berlin. Donald Trump a-t-il été seulement effleuré par ce qui s'est passé à Berlin ce jour-là ? Quand on voit l'état des relations transatlantiques aujourd'hui, le constat massue qu'en fait Emmanuel Macron dans l'entretien que le magazine britannique The Economist vient de publier, il dit, lui, tout simplement, l'OTAN est en état de mort clinique, et aussitôt, Madame Merkel répond, non, l'OTAN reste l'épine dorsale de la sécurité européenne.
Oui, il y a effectivement des interprétations divergentes entre Paris et Berlin sur l'état des relations transatlantique. Mais il faut aussi rappeler que la chancelière, quand Donald Trump fut élu, dans son message de félicitation, elle a rappelé au président américain que la relation transatlantique doit être basée sur les valeurs de liberté, d'état de droit, des droits de l'homme, donc les valeurs de l'Ouest. Et c'est quand même un propos très fort de la part d'un leader européen de souligner cela dans une lettre au leader américain. Mais en même temps, en Allemagne, on sait très bien que la relation transatlantique est fragile au mieux et même caractérisée par des menaces et une compétition à la fois économique, financière. Et l'Allemagne a beaucoup souffert ces deux dernières années sous la présidence de Donald Trump, notamment quand il s'agit des discussions sur les tarifs, l'imposition des tarifs d'importation sur l'automobile, etc. Mais pour l'Allemagne, le concept de l'alliance de sécurité que représente l'OTAN reste le modèle de réflexion. On veut renforcer un pilier européen de coopération en matière de défense, mais il semble comme objectif très loin de pouvoir baser notre sécurité seule sur un pilier européen. Et c'est pour ça que, du point de vue allemand, l'OTAN reste le cadre. Il inclut évidemment aussi le Royaume-Uni qui est en train de sortir de l'Union européenne. Et c'est pour cela qu'il y a une grande peur à Berlin, parmi les leaders politiques, que chaque critique des États-Unis peut les éloigner de l'OTAN et de la solidarité en matière de sécurité transatlantique. Et donc j'explique sa réponse à Emmanuel Macron de cette manière-là. C'est pas qu'elle a un point de vue irréaliste de ce qui se passe aux États-Unis, mais il y a la grande crainte que des propos qui suggèrent que l'Europe se tourne contre les États-Unis, que ça peut renforcer une réaction de la part du président américain de remettre en question cette alliance de sécurité.
Alors Daniela, ce n'est pas une indiscrétion, mais je sais que demain soir, dimanche, vous êtes invitée à la chancellerie. Emmanuel Macron dînera avec Madame Merkel et le président allemand Steinmeier. Madame Merkel a invité une dizaine d'experts en relations internationales dont vous êtes. Et le thème, c'est 30 ans après le mur, quel avenir pour l'Europe? Donc on peut penser que la discussion sera d'autant plus animée que Madame Merkel vient d'annoncer à l'unisson avec la nouvelle présidente de la Commission européenne, von der Leyen, qu'elle était pour l'élargissement de l'Union à la Macédoine et à l'Albanie, alors que le président français a émis un veto absolu à cet élargissement. Donc franchement, le dîner va être intéressant.
Christine, je m'excuse, je dois vous arrêter parce que c'est pas à la chancellerie, c'est le président allemand qui est invité.
D'accord.
Et donc.
Mais c'est néanmoins Merkel, un dîner de cette nature.
Oui, mais Merkel n'est pas absolument confirmée qu'elle soit là.
Ah bon.
Donc, on m'a dit cela, donc il faut être prudent parce que.
Soyons prudents.
Si ça passe. Ouais. Donc c'est le président Steinmeier qui a invité Macron, c'est l'invitation officielle, et on m'a dit que Merkel y sera aussi, mais c'est pas confirmé.
Ben, j'espère que vous nous le confirmerez alors en début de semaine prochaine. Thomas Gomard, ces déclarations massues du président français à ce magazine britannique, avec un constat non seulement sur l'OTAN, mais sur l'état actuel de l'Union européenne, dont il dit en fait ce n'est plus devenu qu'un marché, le projet politique est abandonné. L'ironie du constat, qui est sans doute exact, c'est que c'est une vraie victoire britannique. Et Madame Thatcher doit s'en réjouir dans la tombe.
Oui, peut-être, effectivement, je n'avais pas vu ça comme ça. Moi, j'interprète cette déclaration dans trois directions principales. La première, je pense qu'il y a un effet de réaction de la part d'Emmanuel Macron par rapport à certains échecs qu'il a essuyés, notamment sur la composition de la nouvelle commission. Le fait que la commissaire française proposée, Sylvie Goulard, n'ait pas été investie par le Parlement. Et ça a suscité de sa part des réactions assez vives. Donc il y a une volonté, je pense, dans cette interview, au fond, d'une certaine manière, de critiquer les Européens. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est aussi, à mes yeux, sa réaction par rapport à Erdogan et à l'intervention militaire turque dans le nord de la Syrie. Je rappelle que la Turquie est membre de l'OTAN et que je pense que l'analyse qui est faite par Emmanuel Macron, c'est que au fond, Donald Trump a donné une sorte de feu vert tacite, voire explicite à Erdogan, et ce qui pose le problème au fond de membres de l'OTAN qui poursuivent des intérêts nationaux qui leur sont propres et qui, ce faisant, d'une certaine manière, embarquent leurs alliés, puisque nous sommes unis par ce fameux article 5 au titre duquel nous sommes solidaires. Et puis il y a une troisième raison qui est la justification ou la tentative de justification de l'inflexion qui a été celle d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Russie, qui a été accentuée cet été lors de la conférence des ambassadeurs, qui était déjà assez présente dès 2017 sous d'autres formes, et avec au fond une idée pas expliqué, pas, pardon, exprimé de manière aussi explicite dans l'interview, mais qui est de dire, au fond, si nous avons une mauvaise relation avec la Russie, c'est à cause de l'OTAN. Et donc, si l'OTAN évolue, la relation avec la Russie pourrait s'améliorer. Et là, on a effectivement un désaccord assez fondamental avec bon nombre de pays européens qui, précisément, ont rejoint à la fois l'Union européenne et l'OTAN pour échapper à une zone d'influence historique soviétique puis russe.
Et qui ont été très inquiets lorsqu'Emmanuel Macron a dit qu'il fallait, se rapprocher de Moscou. Aussitôt, on a vu les Baltes et les Polonais frémir.
Vous avez eu des réactions assez différentes, que j'ai trouvées personnellement assez nuancées. Je pense que les réactions, en revanche, sur sa formule que vous avez indiquée de mort cérébrale, sont beaucoup plus vives. Elles sont beaucoup plus vives parce qu'il y a deux choses sur lesquelles on ne se comprend pas. C'est-à-dire que pour ces pays, la garantie de sécurité ultime, c'est bien l'OTAN, même si la plupart d'entre eux sont, pour utiliser un anglicisme, free rider, c'est-à-dire au fond ont abandonné leur sécurité à la protection américaine et ne dépensent pas suffisamment pour leur sécurité. C'est en particulier le cas de l'Allemagne. Et puis il y a une deuxième chose qui n'est pas dite, c'est que en réalité tous les progrès qui sont faits en termes d'autonomie stratégique européenne, il y a eu tout un travail diplomatique français pour expliquer que ce n'était pas fait contre l'OTAN précisément, mais il y a quelque chose d'illusoire de croire que ces progrès permettent effectivement d'équiper, d'organiser des forces armées. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a à mon avis un décalage assez fort entre l'ambition affichée dans le discours présidentiel et la réalité de ce que ça veut dire en termes militaires.
Évidemment, on ne peut s'empêcher de penser à une autre interview retentissante qui remonte, elle, au mois de juin. Vladimir Poutine dit au Financial Times, en gros, le système des démocraties pluraliste, libéral, etc., c'est fini. Et désormais, ce qui triomphe partout dans le monde, ce sont les régimes autoritaires, nationalistes, il dit pas autoritaires, nationalistes fondés sur un ordre moral.
Si vous voulez, avec Vladimir Poutine, on a l'avantage d'avoir quelqu'un de constant et de cohérent en termes idéologiques. C'est-à-dire qu'il se voit comme l'avant-garde d'une sorte de révolution conservatrice. Et avec un discours construit idéologiquement dès 2004, qui était une réaction au principe de promotion de la démocratie, qui était celui de l'administration Bush Junior. Et à ce principe-là, il a répondu par la démocratie souveraine. Le terme apparaît dès 2005 et va servir au fond de fil rouge à la Russie de Vladimir Poutine, qui va être capable de produire ce que j'appellerais des anticorps idéologiques par rapport à ce qui est porté à ce moment-là par Washington et d'autres capitales européennes. Et on fait ça évidemment dans un contexte post-élargissement de 2004, précisément aux anciens pays du bloc soviétique.
Et on réécrit l'histoire.
Alors, il y a un travail historiographique, effectivement, qui est fait. C'est-à-dire que ce qui est, à mon avis, recherché aujourd'hui par Vladimir Poutine, c'est de dire, au fond, nous n'avons pas perdu la guerre froide. Les 10 années entre 1991, tentative de putsch, URSS, et septembre 2001 sont 10 années tout à fait exceptionnelles dans l'histoire russe, c'est-à-dire des années de déshérence, mais en réalité, nous revenons à une situation d'équilibre européen telle que nous l'avons toujours connue. Et il y a ce discours historiographique est porté, si vous voulez, pour faire de la Russie la principale puissance aujourd'hui dans le concert européen. Et en ce sens, il est très servi par l'affaiblissement du lien transatlantique, qui, à mes yeux, est moins provoqué par l'action de la Russie que par les désaccords très profonds entre les deux rives de l'Atlantique.
Je voudrais poser la même question, Ivan Krastev. De votre point de vue, quand Vladimir Poutine annonce en quelque sorte la mort du système libéral, est-ce que, à votre avis, il a des arguments pour convaincre ?
C'est bien sûr l'ironie de l'histoire. Si on lit Poutine, on voit qu'il tente d'utiliser les mêmes phrases, genre « le libéralisme est une expérience qui a échoué », l'histoire prend désormais un chemin différent. Il tente de réécrire la fin de l'histoire l'article de Francis Fukuyama, mais avec cette fois comme titre « La fin du libéralisme ». Mais tout comme l'histoire ne s'est pas arrêtée en 89, le libéralisme ne prendra pas fin en 2019. Malgré cette vague de ressentiment, ces partis et ces gouvernements illibéraux en place, il suffit de regarder la dernière vague d'élections en Europe centrale et orientale pour voir que tout comme le libéralisme a créé du ressentiment, l'illibéralisme en a produit aussi. Ce type de nationalisme n'est pas spécialement différent. C'est en fait plus de la nostalgie qu'un projet d'avenir. Ce sont des régimes qui tentent de préserver quelque chose qui existait autrefois, mais ne savent pas parler d'avenir. Je ne crois pas que quelqu'un qui a peur de l'avenir puisse être celui qui s'appropriera l'avenir. Les régimes illibéraux vont avoir un effet sur la manière dont le libéralisme va se repenser et sur la façon dont les gens vont vivre leur vie. Mais je ne crois pas que les nationalistes vont hériter le monde. Nous allons simplement vivre dans un monde beaucoup plus pluraliste. Et nous savons désormais que l'histoire n'est pas un train qui roule vers une destination finale. C'est plutôt comme un yacht qui vogue au gré des vents.
Daniela Schwarzer, est-ce que cette, l'image maritime que vient de, d'utiliser notre ami Ivan Krastov, est-ce que, selon vous, elle peut correspondre à ce qu'est aujourd'hui, le projet européen, dont on voit bien, en fait, qu'il n'y a plus de définition claire et que les deux leaders, le français et l'allemande, qui traditionnellement, dans l'histoire chaotique de cette Europe qui est quand même une invention sans précédent et très imparfaite, mais néanmoins très originale. À partir du moment où ces deux dirigeants, comme il semble l'être ces jours-ci, ne sont plus en phase, comment éviter que ce projet européen reste flou et n'offre plus en fait de solution aux citoyens, aux quelques 500, 520 millions de citoyens européens?
Les débats sur l'Europe et surtout sur l'avenir du projet européen, il est très vaste et très large et on a souvent l'impression qu'il n'y a effectivement pas une définition claire de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. Mais je ne suis pas d'accord que ce soit le cas parce qu'on a quand même des bases de notre intégration européenne qui sont là et qui sont, à mon avis, qui sont notre atout dans ce monde qui change si rapidement autour de nous. Donc, en premier lieu, c'est le projet économique, donc l'intégration du marché unique avec une monnaie unique qui nous rend une force économique qui peut être en compétition facilement avec les États-Unis et la Chine.
Et là, Berlin vient de faire un pas pour renforcer la zone euro.
C'est un geste important qu'a fait notre ministre des Finances il y a deux jours. Il a publié un article sur son projet pour compléter l'union bancaire. Et c'est un élément clé sur lequel l'Allemagne et la France n'étaient pas d'accord. Et c'est clair que lui, en tant que partenaire dans la grande coalition à Berlin, il a fait un grand pas en avant. Mais tout de suite, il y avait eu des critiques même au sein de la coalition. Donc ce n'est pas encore la position officielle allemande, mais c'est une évolution très importante. Donc, il y a ce cœur économique qui est très important. Et là, aujourd'hui, on se trouve en plein débat au début de la nouvelle Commission européenne qui va, je l'espère, commencer son travail au mois de décembre. Elle est définie comme, par la présidente Ursula von der Leyen, comme Commission européenne géopolitique. Et ça démontre très clairement que les défis de l'Europe, c'est à la fois en interne, parce qu'il faut renforcer tout ce que l'Union européenne a achevé. Il y a plein de problèmes, on vient de les évoquer, en partie entre Est, Ouest, Nord, Sud, etc. Mais en même temps, l'Union européenne doit forcément renforcer son rôle à l'échelle internationale. Et c'est là où la France et l'Allemagne, où le président français et la chancelière allemande, en ce moment, ont des visions qui ne sont pas les mêmes, mais à mon avis, l'intérêt géopolitique, l'intérêt géoéconomique, reste le même. Donc, à un niveau d'abstraction, on peut être d'accord, mais après, la déclinaison, comment est-ce qu'on renforce ce rôle de l'Europe pratiquement? Là, il y a des réponses qui sont vraiment différentes. Donc, on a parlé de l'OTAN, les propos du président français qui dit, en gros, le modèle est cassé, il faut retourner vers l'Europe, et la chancelière qui dit, oui, il faut renforcer l'Europe, mais en même temps, on ne peut pas le faire sans les Américains, au moins pour les 10 à 20 ans à venir. Donc il y a des interprétations, et ce qui reste clé dans cette situation, c'est que Paris et Berlin se mettent d'accord. Parce que, à mon avis, il est toujours vrai que si les deux sont d'accord, on a au moins la chance que ça puisse bouger. Si les deux ne s'entendent pas du tout, je ne vois pas d'autres leaders en place en Europe qui pourra le faire. Et même si Paris et Berlin sont d'accord, il y a un travail politique énorme qui reste à faire pour convaincre les autres et les intégrer dès le début dans les discussions stratégiques. C'est très important. Les institutions européennes ont leur travail à faire d'arriver à un point où on a une vision intégrée européenne où on veut aller. Et c'est là le défi qui commence avec la nouvelle commission, parce qu'il y a un programme de travail très ambitionné, de le mettre en œuvre. Et à mon avis, le défi principal, ce sera le rôle international de l'Union européenne.
Thomas Gomard, cette question de l'élargissement reste néanmoins extraordinairement difficile à résoudre. À partir du moment où Emmanuel Macron, de façon catégorique, a dit que malgré tous les efforts consentis par la Macédoine et par l'Albanie, pour non pas pour entrer, hein, mais pour entrer dans le processus d'entrée, si j'ose dire, c'est-à-dire commencer le cheminement avec les différentes étapes qui ont été imposées à d'autres pays d'Europe centrale et orientale. Là, Madame Merkel, au contraire, et on voit bien comment, quand on regarde la carte d'Europe, considère que non seulement c'est stratégiquement essentiel par rapport à la Russie, mais en plus, c'est aussi pour l'Allemagne une question de marché économique.
Il y a beaucoup de choses, parce que il faut se souvenir qu'une des voies de sortie des guerres de l'ex-Yougoslavie a été d'ouvrir la perspective de l'élargissement aux pays issus de l'ex-Yougoslavie. C'est-à-dire que c'était une perspective qu'on leur a fait miroiter pour arriver à la paix entre eux. Donc ça, c'est déjà un premier élément, c'est-à-dire que la question de l'élargissement dans les Balkans renvoie à la question de la stabilité des Balkans et donc à la capacité des Balkans de déstabiliser l'ensemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'argument du président Macron est de dire « ça fonctionne pas aujourd'hui alors que nous sommes 27, ça fonctionnera encore moins si on ajoute même des petits pays ». Et à forcerie, il fait une distinction dans l'interview, vous avez probablement noté, entre la Macédoine du Nord et l'Albanie en disant « en plus, il y a une diaspora albanaise dans d'autres pays, des minorités albanaises dans d'autres pays, ce qui va générer beaucoup de frictions et ce qui présente des risques. Le troisième élément, c'est que vous avez raison, c'est la vision allemande, au fond, est une vision où l'appareil de production allemand s'est beaucoup organisé sur son hinterland continental et en particulier vis-à-vis de ces pays. Alors pas les deux concernés, mais au fond on a eu une recomposition des chaînes logistiques allemandes, de l'industrie allemande qui passe beaucoup par les pays d'Europe centrale et orientale. C'est pour ça qu'à mon avis le cas des Balkans est un peu à part, mais ça participe de cette logique-là. Et qu'au fond, côté français, je pense qu'il y a de manière inavouée et peut-être inavouable une nostalgie de l'Europe à 12. C'est-à-dire que l'Europe à 12, c'était bien parce que précisément, entre Paris et Bonn, quand Paris et Bonn s'entendaient, l'ensemble suivait quasiment au doigt et à l'œil. Or, c'est plus du tout le cas. Et aujourd'hui, il y a à mon avis une inquiétude allemande après le Brexit de se retrouver justement dans un face-à-face avec Paris qui pense peut-être le grand large ou qui pense plus l'Union européenne au niveau international que ne le fait l'Allemagne. Et à l'inverse, il y a du côté de Paris la prise de conscience de l'asymétrie très forte qui s'est créée notamment en termes économiques avec Berlin au cours des 15 dernières années. Et donc ce qui me fait dire que sur cette question de l'élargissement, c'est un révélateur à mon avis, d'une relation franco-allemande aujourd'hui très détériorée en réalité, au-delà de la fichesse et de la volonté, à mon avis, partagée de l'améliorer. Mais les différends, c'est pas quelque chose de nouveau, mais les différends sont en réalité très profonds.
Daniela, vous êtes d'accord avec ce constat très réaliste?
très réaliste, oui, je suis d'accord. À mon avis, juste un petit ajout sur le point de vue allemand sur les Balkans. Alors, à mon avis, le débat à Berlin reste toujours très sous l'impression de l'instabilité et aussi de la violence des guerres des Balkans, des réfugiés que l'Allemagne a accueillis, et ce grand effort de stabilisation qui fut nécessaire pour rendre la paix dans cette région-là. Et donc, pour l'Allemagne, la politique d'élargissement, c'est un outil de transition démocratique et aussi de transition vers la stabilité des régimes. Et donc, l'ouverture des négociations avec les deux pays en question était un signal important à donner qu'il y a une perspective d'intégration européenne, parce que tous les travaux que mène le gouvernement allemand avec les gouvernements dans la région, mais aussi l'investissement pour renforcer le secteur, la société civile, les liens qui sont en train d'être construits avec les acteurs dans ces pays, académiques, sociaux, etc., tout ça a besoin d'un cadre. Et si les gens sur place perdent la perspective d'un jour pouvoir négocier leur entrée dans l'Union européenne, le point de vue à Berlin est quand même que si on perd cette perspective, le travail est d'autant plus fort que, par exemple, la Russie et la Chine, mais aussi d'autres pays, sont déjà fortement impliqués dans ces pays-là. Il y a cette compétition de valeurs, de systèmes, la démocratie libérale qui est sous pression, qui se joue sur place, dans ces pays même. Et c'est pour ça que, du point de vue allemand, la décision de peut-être retarder, peut-être ne jamais ouvrir les négociations avec ces deux pays-là est une erreur majeure stratégique.
Daniela Schwarzer, merci mille fois d'avoir été longuement avec nous par téléphone de Berlin, et très bon dîner donc dimanche soir à l'invitation du président de l'Allemagne, Steinmeier. Thomas, le mot de la fin, enfin de la fin provisoire. On sait que nous avons en France un président qui a été élu sur une ambition européenne forte, l'ode à la joie devant la pyramide du Louvre. Le chantier européen reste 30 ans après la chute du mur, le chantier majeur.
Ça, c'est certain. Je pense qu'il y a une question immédiate sur laquelle il faudra revenir très vite, qui est la question de la Turquie, parce que, à l'instar des autres pays, les négociations d'adhésion sont ouvertes depuis plusieurs décennies et n'aboutissent pas.
Et alors, à l'instant, on a appris hier qu'il y aurait un sommet Turquie, France, Allemagne, Grande-Bretagne. En décembre, donc en marge du sommet de l'OTAN qui est prévu à Londres le 3 et 4 décembre, donc un sommet consacré à la Syrie. Voilà, merci à tous, merci à vous Thomas Gomard, auteur de L'affolement du monde chez Taillandier cette année. Yasha Munk, vous avez publié Le peuple contre la démocratie aux éditions de l'Observatoire. Daniela Schwarzer, les rapports de l'Institut allemand de politique étrangère sont toujours fort intéressants. Et Ivan Krastov, vous venez de publier, ou plutôt votre livre, Le moment illibéral, vient d'être traduit en français chez Fayard. Merci à Amdam Mostafavi de Courrier International, à Michel Zotowski pour son excellente traduction, à Luc-Jean Reynaud à la réalisation, Clément Daté à la technique, et Hugo Boursier a préparé cette émission. Et comme chaque samedi, vous avez rendez-vous avec Hervé Gardette. Très bon week-end, à samedi prochain.